RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 95-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, chers auditrices et chers auditeurs des quatre points du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission sera commencée par le journal, suivi le commentaire et l'histoire d'aujourd'hui. Nous allons également présenter la rubrique Mon Indonésie. La rubrique suivante est le magazine culturel et l'Indonésie en couleur. Avant de terminer cette émission, nous présenterons des musiques indonésiennes. Voilà le programme pour aujourd'hui. Écoutons maintenant le journal et le commentaire.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Serviteurs, bonsoir. Bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. L'ambassade d'Indonésie à Kuala Lumpur donne un programme d'autonomisation pour les travailleurs migrants en difficulté en Malaisie. Le président d'Indonésie, Joko Widodo, a dit que le vol indonésien était dans les rangs d'élite. L'Indonésie regrette la décision des États-Unis de sortir du Conseil des droits de l'homme. Le président Xi Jinping encourage les ambassadeurs d'Indonésie et de la Chine à renforcer la coopération. L'Indonésie et la Finlande ont atteint une croissance significative des relations bilatérales en 2017. L'ASEAN ne s'inquiète pas des changements militaires du Japon. Voici le journal complet. L'ambassade de la République d'Indonésie à Kuala Lumpur ne fournit pas seulement des services administratifs tels que passeport, visa, permis de travail, mais aussi la protection et l'autonomisation, en particulier pour les travailleurs migrants ayant des problèmes. En alal bi'alal de l'Idul Fitr à Wisma Duta Kuala Lumpur hier, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Indonésie pour la Malaisie, Rusdi Kirana, a déclaré qu'il y avait actuellement des travailleurs migrants indonésiens qui sont hébergés dans un arbitre d'ambassade pour être habilités et formés de sorte que plus tard ils peuvent être plus indépendants.
Kurang lebih ada 80 orang pekerja migran Indonesia yang tinggal di shelter kedutaan.
Environ 80 travailleurs migrants indonésiens vivent dans des abris d'ambassade. Ils sont formés par les maires de Dharma Wanita, cuisiniers comme les nouilles frites, le riz frites et les collations pour leur ventre. Mon objectif est qu'ils doivent obtenir deux fois plus qu'ils travaillent comme domestiques, pour qu'ils voient faire des affaires et mieux qu'être main d'œuvre féminin. Cette perception doit être éliminée. Rusdi Kirana a expliqué que les travailleurs migrants résidant dans des abris sont des travailleurs migrants en difficulté, tels que ceux dont le salaire n'est pas payé, qui ont reçu un traitement défavorable ou qui se sont échappés du travail. Avec l'autonomisation, Rusdi espère plus tard ils peuvent avoir leur propre entreprise sous la forme de PME ou petites et moyennes entreprises si un jour revenir en Indonésie. Le président Joko Widodo a apprécié le travail dur du gouvernement et des compagnies aériennes nationales qui ont finalement obtenu la confiance du comité de la sécurité aérienne de l'Union européenne. Ceci est en ligne avec la levée de l'interdiction de vol contre 55 compagnies aériennes indonésiennes. selon le président, c'est le cas de l'Idul Fitr qui est attendu depuis 11 ans. Depuis qu'un certain nombre de compagnies aériennes indonésiennes ont été interdites de voler à l'Union européenne en juillet 2007. Le président Joko Widodo, sur sa page Facebook mercredi, a déclaré « Grâce à la levée de l'interdiction, les compagnies aériennes indonésiennes sont dans les rangs des compagnies aériennes d'élite du monde. C'est une grande responsabilité morale, car il y a une obligation de maintenir et d'améliorer continuellement le niveau de sécurité, de sûreté et de confort des services de l'aviation nationale. » L'Indonésie a profondément regretté la décision américaine de quitter le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Le ministère indonésien des Affaires étrangères a écrit mercredi sur son site officiel que le Conseil des droits de l'homme était un forum de coopération multilatérale et d'engagement de la communauté internationale à défendre et à promouvoir la protection des droits de l'homme. Le Conseil des droits de l'homme est également un espoir pour les communautés faible dans tout le monde d'attirer l'attention sur la protection de diverses violations des droits de l'homme. L'Indonésie se rend compte que le travail du Conseil des droits de l'homme n'est pas encore parfait, mais le processus de réforme comme requis par d'autres organes de l'ONU, tels que le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale des Nations Unies, nécessite également un engagement politique et un esprit de multilatéralisme des membres. L'Indonésie et d'autres pays du monde continueront de contribuer et de collaborer pour défendre et promouvoir la protection des droits de l'homme à travers de la coopération multilatérale dans le cadre du mandat du Conseil des droits de l'homme, notamment en renforçant les performances du Conseil des droits de l'homme. L'ambassadeur d'Indonésie en Chine, Jauhari Oratmangun, est optimiste que des bonnes relations et une forte coopération entre l'Indonésie et la Chine bénéficieront non seulement les deux pays, mais contribueront également à la stabilité politique et la sécurité régionale. Antara a rapporté à l'occasion d'une conversation avec le président Xi Jinping, après avoir transmis la lettre de créance de 13 ambassadeurs des pays amis au président chinois à Pékin, l'ambassadeur Jauhari a exprimé sa gratitude au gouvernement indonésien car l'élection de l'Indonésie comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies est indissociable du soutien chinois. Pendant ce temps, le président Xi Jinping s'est également déclaré prêt à recevoir la visite du président Joko Widodo, ajustée à l'horaire du président de la République d'Indonésie. Le président Xi Jinping a également encouragé les ambassadeurs des deux pays à améliorer la coordination et à collaborer pour favoriser le développement des relations et de la coopération entre les deux pays. L'Indonésie et la Finlande ont atteint une croissance significative des relations bilatérales en 2017. Cela a été déclaré par la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, lors d'une rencontre bilatérale avec son homologue finlandais, Timo Soini, à Helsinki, en Finlande, lundi. Comme rapporté par la page du ministère des Affaires étrangères de l'Indonésie, en 2017, le commerce bilatéral a augmenté de 66% et le nombre de touristes finlandais en Indonésie a augmenté de plus de 21%. Finnair a également fait des vols d'Helsinki à Bali. En outre, il y a une nouvelle coopération qui a été convenue, à savoir dans le domaine du dialogue interreligieux. La première réunion du dialogue interreligieux aura lieu en septembre 2018. Les deux parties sont également d'accord pour l'énergie renouvelable et l'éducation et la science. Une question importante qui a été convenue d'être bientôt résolue est la coopération de l'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de services. On espère dans les relations internationales de l'Université Gadjah Mada, Yogyakarta, Siti Daulah Khairiati évalue que les pays de l'Asie ne s'inquiétaient pas du plan de changement de la constitution du Japon visant à l'indépendance et au renforcement militaire. Comme l'a cité Antara, l'expert de l'étude du territoire du Japon a affirmé à Jakarta mercredi que l'intensité de la peur de se produire la cruauté japonaise dans le passé a été considérablement réduite. les écoles militaires des pays de la région de l'Asie du Sud-Est ont également considérablement augmenté. Les pays qui avaient été colonisés par le Japon à l'époque des années 1940 ont maintenant de grandes capacités militaires. Il expliquait que les préoccupations sur la domination militaire japonaise ont diminué. Même l'ASEAN a invité le Japon en tant que partenaire de dialogue dans l'ASEAN plus 3 ou le renforcement des capacités, y compris la coopération en matière de sécurité avec l'ASEAN. Chers auditeurs, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les commentaires. Le point de vue de RRI World Service, la voix de l'Indonésie, sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Chers auditeurs, voici donc le commentaire ayant pour le titre « Urbanisation, phénomène annuel post-lebaran ». L'urbanisation ou la migration du rural vers l'urbain est un phénomène qui se produit dans les grandes villes, surtout après lebaran. On ne peut pas nier, la grande ville est toujours considérée par les villageois sont très promoteurs pour l'amélioration de leur sort. Les grandes villes sont considérées comme ayant beaucoup de possibilités d'emploi que dans le village. Imelda Freddy, chercheur du Centre de recherche pour les études politiques indonésiennes ou CIPS, a révélé que le taux d'urbanisation continuera à augmenter chaque année. C'est naturel parce que chaque grande ville a son propre charme qui encourage les villageois à visiter. Par ailleurs, le chef du bureau présidentiel indonésien, Muldoko, a déclaré que l'urbanisation post-Eid al-Fitr est naturelle et qui doit être menée avec sagesse. Comment la façon pour que les résidents migrants ne soient pas un fardeau de la municipalité, mais pas être confrontés par le rejet? Selon Muldoko, il vaut mieux que des villageois qui veulent tenter leur chance dans les grandes villes devraient être donnés une compréhension. Avant de partir, ils devraient avoir la certitude de travail et la résidence dans la ville. L'urbanisation sans boucle claire causera de la détresse aux immigrants et des problèmes pour la ville de destination. Le vice-gouverneur de DKI Jakarta, Sandiaga Uno, espère que les nouveaux arrivants à Jakarta ont vraiment les compétences. Ils peuvent donc être indépendants et améliorer le bien-être. Le professeur de sociologie économique à l'Université Airlangga Surabaya, Bagong Suyanto, a déclaré que l'urbanisation ne s'arrêtera pas tant qu'il y aura une distribution équitable du développement. La déséquilibre économique entre les zones rurales et urbaines est l'une des raisons du taux élevé d'urbanisation. M. Bagong a estimé que le programme actuel des fonds villageois pouvait être la clé de l'amélioration du développement et de l'économie des villages. Le programme devrait ouvrir de nombreux nouveaux emplois. Selon le ministre du Village, du Développement des régions sous-développées et de la transmigration, Eko Putro Sanjoyo, le développement qui est fait dans les zones rurales jusqu'à présent a permis de réduire le nombre d'urbanisations. Par le développement, certains emplois sont créés dans le village qui peut stimuler l'équité économique. De nouveaux emplois résultant d'un développement massif dans le village devraient également attirer les populations urbanisées désireuses de travailler dans leur région d'origine respective. Chaque phénomène, s'il est examiné la véritable cause de l'émergence et les solutions alternatives, doivent avoir une solution. Il est prévu que le programme du Fonds villageois puisse être utilisé pour promouvoir le développement dans le village. Ceci vise à créer de l'emploi pour les communautés rurales. Si cette situation se produit, les chiffres de l'urbanisation devraient continuer à diminuer d'année en année. Et les conditions économiques dans les villages s'amélioreront. Chers auditeurs, c'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Musique.
les faits historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Tous les auditeurs de RRI World Service Voice of Indonesia, n'importe où que vous soyez, voici la rubrique L'histoire d'aujourd'hui, l'édition du 21 juin. On la commence par le 21 juin 1961, la naissance du président indonésien Joko Widodo. Joko Widodo, ou Jokowi, est né à Surakarta, Java Central, le 21 juin 1961. Il est le septième président indonésien qui a pris ses fonctions depuis le 20 octobre 2014. Il était gouverneur de DKI Jakarta du 15 octobre 2012 au 16 octobre 2014. Sa carrière politique a commencé en devenant le maire de Surakarta du 28 juillet 2005 au 1er octobre 2012. Son nom est devenu célèbre après qu'il a réussi à changer le visage de la ville de Surakarta en ville de tourisme, de culture et de batik. Le 20 septembre 2012, Joko Widodo a remporté l'élection du gouverneur de DKI Jakarta. Puis, le 21 juin 1970, la mort de Sukarno. Dr. Insinyur Sukarno était le premier président de la République d'Indonésie qui a servi dans la période de 1945 à 1966. Il est décédé à Jakarta le 21 juin 1970 à cause de maladie. Sukarno jouait un rôle très important pour libérer la nation indonésienne du colonialisme hollandais. Il a été le proclamateur de l'indépendance indonésienne avec Muhammad Hatta le 17 août 1945. Depuis sa jeunesse, Sukarno a été actif dans la lutte politique contre la colonisation néerlandaise. En raison de ses activités politiques, Sukarno a été emprisonné plusieurs fois par le gouvernement néerlandais. Sukarno est bien connu comme le creuseur de Pancasila parce qu'il était la première personne à déclencher le concept du principe national de l'Indonésie et l'a nommé Pancasila. On termine cette édition avec le 21 juin 1972, le jour de Crida de l'agriculture. Le 21 juin a été fixé comme Hari Crida Pertanian ou le jour de Crida de l'agriculture par le gouvernement en 1972. Le 21 juin est le début de la première saison qui marque le début du cycle de 12 saisons connu par le peuple indonésien, qui comprennent le mouvement de la saison de pluie, la sécheresse, le vent, les insectes, les maladies, etc. Basé sur des documents historiques et culturels, ce qui est important pour les communautés agricoles, y compris les communautés de l'élevage, c'est d'exprimer la gratitude à Dieu pour les résultats qu'ils obtiennent. Basé sur la compréhension de la sagesse culturelle locale, depuis 1972, la date du 21 juin a été fixée comme Hari Crida Pertanian ou le jour de Crida de l'agriculture pour toutes les communautés agricoles en Indonésie. Les auditeurs, c'est tout l'histoire d'aujourd'hui cette fois. Merci d'écouter La Voix de l'Indonésie.
Indonesiaku, Mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Bonsoir à tous. Voici mon Indonésie. Dans le titre, les agriculteurs de Sumba du Sud-Ouest produisent de l'engrais organique. Un certain nombre d'agriculteurs de Sumba du Sud-Ouest, en province de Nusa Tenggara de l'Est, produisent leurs propres engrais organiques qui sont guidés par Yayasan Pengembangan Kemanusiaan Dongder ou la Fondation pour le Développement Humanitaire de Dongder. Par exemple, les agriculteurs de Goludapi, du village de Welonda, fabriquent des engrais organiques à partir de diverses feuilles de tiges de bananier, de pailles et de tiges de maïs sèche. Les feuilles et les tiges sèches sont hachées puis mélangées avec la poudre de bois, du bouse de bœuf et de l'engrais pour sous forme de fermentation de micro-organismes locaux. Puis, il est fermenté pour devenir un engrais. Pour récolter et couper les feuilles et les tiges sèches, ces agriculteurs sont aidés par leurs enfants après l'école ou pendant les vacances scolaires. Les enfants travaillent en jouant et en apprenant à faire de l'engrais organique à la place de la fabrication d'engrais. Cette place est un bâtiment de ciment et de toit situé à côté du bâtiment Uma Pagé ou la maison intelligente du village. Dewi Mandeta, l'assistante de la Fondation pour le Développement Humanitaire de Dongder, qui les accompagnait pour fabriquer des engrais organiques qui seront utilisés par 26 agriculteurs des membres du groupe. Elle a expliqué à Antara, mercredi, que l'engrais pour sous forme de micro-organismes locaux préparés sera mélangé avec les ingrédients pour devenir environ une tonne d'engrais organique solide qui peut ensuite être utilisé pour fertiliser les plantes d'environ ou un hectare. Ce mélange d'engrais organiques comprend des feuilles, des fruits et des tiges. Au moment de l'utilisation, il se décomposera pour fertiliser les plantes, comme les branches ou arbres, les feuilles et les fruits. Micro-organismes locaux ou MOL est un mélange de fruits de papaye, de riz de mi-cuit fermenté, de l'eau de noix de coco et du sucre brun. Tous ces matériaux peuvent être obtenus facilement dans le village, sauf le sucre brun qui doit être acheté au prix de 25 000 roupies par kilogramme. La Fondation pour le Développement Humanitaire de Dongder a guidé près d'une centaine de groupes d'agriculteurs de 4 districts de Sumba, entre autres 36 groupes de Sumba du Sud-Ouest, en coopérant avec plusieurs parties, telles que l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture et le Millennium Challenge Akun de l'Indonésie. Voilà mon Indonésie.
Show the world you're as bright.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/frenca.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia.
Les auditeurs, le riz frit est un plat qui est fait à partir du riz frit avec de divers aliments tels que des œufs, des légumes, des fruits de mer et de la viande. Ce plat est populaire dans de nombreux pays d'Asie de l'Est et d'Asie du Sud-Est. Le riz frit est un plat cuisiné à la maison. Il est généralement fabriqué à partir d'ingrédients alimentaires présents ou laisser à la maison. En plus des plats à la maison, dans certains pays, le riz frit devient une collation populaire vendue sur le trottoir ou colportée par un marchand itinérant. Ce plat est de plus en plus varié. Les auditeurs, si vous voyagez à la ville de Kediri, Java de l'Est, et que vous goûtez des plats culinaires distinctifs, vous y trouverez une variante unique de riz frit. C'est le riz frit anglo. Le riz frit anglo est similaire au riz frit en général. Les épices sont aussi mêmes que le riz frit ordinaire. Mais comment faire le riz frit anglo est différent. Le riz frit anglo est fait en utilisant un four en argile ou en terre cuite. Le feu provient de la combustion du carbone de bois en tant que brûleur principal. Les auditeurs, le goût du riz frit de Kediri est si délicieux. Son odeur est aussi très forte. Ce qui distingue le riz frit anglo avec le riz frit en général est la mesure de cuisson. En général, on cuisine du riz frit anglo pour une portion. C'est-à-dire, bien qu'il y ait plusieurs portions commandées, on les cuisinera une par une. Pour les épices, les commerçants traitent habituellement leur propre assaisonnement en utilisant des épices traditionnelles. Les auditeurs, le riz frit anglo est très facile à trouver dans le coin de Kediri. Parce qu'en général, le vendeur de riz frit utilise l'anglo pour cuire du riz frit. Ce plat est généralement trouvé à l'après-midi jusqu'au soir, de 18h à 24h. En plus du riz frit, les vendeurs de riz anglo vendent aussi du riz mawut. C'est le riz frit mélangé à des nouilles. Il y a aussi une soupe aux légumes et une soupe aux nouilles. Le prix de ces repas est encore relativement abordable. Le prix du riz frit, des nouilles ou du riz mawut est seulement 12 000 rupies par portion.
La Voix de l'Indonésie depuis Jakarta dans la rubrique Bahasaku comme le média pour préserver la diversité des langues régionales en Indonésie.
La Voix de l'Indonésie depuis Jakarta dans l'émission Ma Langue comme le média de la préservation de diversité des langues régionales en indonésienne. Tous les auditeurs, on se rencontre avec moi, Tiwi, dans la rubrique de Ma Langue. Dans cette édition, nous allons vous inviter à visiter la province de Java de l'Ouest pour apprendre à connaître diverses choses à propos de Sundanese. Les auditeurs, les efforts de préservation de la langue sundanaise ont de plus en plus diminué. Cela rend certainement l'identité des habitants de Sunda ou de Java de l'Ouest menacée. Et alors, le gouvernement indonésien met également en œuvre divers efforts pour maintenir la langue sundanaise. Comme indiqué par M. Sutejo, le chef du centre linguistique de la province de Java de l'Ouest, pour préserver sundanaise, il existe un magazine, nommé Magazine Pas Sundan. Ensuite, dans la région de Cirebon, il existe un magazine côtier dont la langue est typique de Cirebon et de Betawi, parce que c'est Betawi Malay aussi. Nous prévoyons également de créer un dictionnaire de trois langues indonésiennes, sundanais et cirebonan. Nous organisons aussi souvent un concours de duta bahasa, l'ambassadeur de la langue. Et dans ce concours, il faut être capable de parler anglais, indonésien et sundanais. Il faut être capable de communiquer en sundanais et d'écrire en sundanais. D'après les remarques de M. Sutejo, nous entendons divers efforts qui ont été faits par le gouvernement pour préserver la langue sundanaise. Mais, sans le soutien ou la réponse positive de la communauté, ces efforts de conservation seront vains. M. Sutejo a également dit qu'il y a encore beaucoup de gens qui se soucient de la langue sundanaise. C'est très extraordinaire. L'ambassadeur de la langue sundanaise, la langue Java de l'Ouest, a compté près de 250 étudiants qui se sont inscrits. C'est le premier. Et deuxièmement, s'il y a des concours d'écriture sundanais, les intérêts sont remarquables. Les auditeurs, voici les exemples de mots en sundanais. Punten, punten. En français, excusez-moi. Ngalangkung. Ngalangkung. En français, passé. Bade kemana? Bade kemana? En français, tu veux aller où? Meser. Meser. En français, acheter. Daharen. Daharen. En français, des repas. Tous les auditeurs, voici les exemples des phrases en sundanaise. Punten iis, ngiring kalangkung. Punten iis, ngiring ngalangkung. Qui signifie « excusez-moi, iis » Je voudrais passer. Eh, wis, bade kamana? Eh, wis, bade kamana? Qui signifie? Eh, wis, tu veux aller où? Abdi bade meser daharen ka warung. Abdi bade meser daharen kawarung, qui signifie je vais acheter des repas à l'étal. Tous les auditeurs, n'oubliez pas d'envoyer vos critiques et suggestions par les mails à voi@voinews.id ou par notre Facebook The Voice of Indonesia. Voilà l'émission de ma langue, comme le média de la préservation de diversité des langues régionales indonésiennes.
La Voix de l'Indonésie depuis Jakarta dans la rubrique Bahasaku comme le média pour préserver la diversité des langues régionales en Indonésie.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir, c'est Xami. Merci à écouter La Voix d'Indonésie à Jakarta. Voici le magazine musical qui s'agit des musiques traditionnelles et pop de l'Indonésie. Vous pouvez écouter nos émissions sur la fréquence de 9525 kHz. Pour l'édition de ce soir, nous vous présentons des chansons pop nostalgiques chantées par Ernie Johan. Pour ouvrir notre rencontre, voici sa première chanson intitulée « La baie de Bayur ». Bonne écoute. Serviteur, c'était la chanson d'Eri Johan intitulée La baie de Bayur. Si vous voulez envoyer une lettre par courrier électronique à french@voi.co.id, et nous vous invitons également à rejoindre la Voix d'Indonésie sur Facebook Voice of Indonesia ou à nous suivre sur Twitter @voiindonesia. Ernie Johan a commencé d'abord sa carrière dans les pays voisins à Singapour. Pourquoi son premier debut à Singapour? Parce que Ernie Johan a suivi ses parents, un diplomate indonésien qui a servi à Singapour. Une fois, elle a participé à la compétition de radio singapourienne Talent Time et a réussi à devenir finaliste et son nom est plus connu par le public à Singapour. Après cela, une chanteuse avec le nom complet Ernie Erawati Johan avec sa sœur Lisda Johan a formé un duo de chant nommé Ernie Sister. En 1962, elles ont sorti un album intitulé Tourisme de Singapour avec un single principal intitulé Surya Gemilang. En 1963, la famille d'Ernie est revenue en Indonésie. Le premier président de l'Indonésie, Insinyur Soekarno, a souvent invité Ernie à chanter afin d'accueillir les invités d'État au palais de l'État. À cette époque, Ernie Johan avait rejoint le groupe Madenas dirigé par Dimas Wahab, le père de trois membres du célèbre groupe de Beragi dans les années 1990. Bon, serviteur, avant de connaître mieux Ernie Johan, écoutons maintenant sa chanson suivante intitulée Tu es toujours dans mon cœur. Bonne écoute. Secretaire, vous venez d'écouter la chanson de Ernie Johan intitulée « Tu es toujours dans mon cœur ». Ernie Johan a atteint son âge d'or dans les années 1970. Son travail obtient toujours une réaction positive des amateurs de musique dans le pays. L'album intitulé « B de Bayour », par exemple, album avec le single dont le titre est même que celui de son album Bay de Bayeux, si populaire à cette époque. Grâce à cet album, Ernie John a enregistré comme première chanteuse qui accepte Golden Record car son album a vendu des millions de copies. Bon, chers auditeurs, avant de terminer notre programme, voici les deux dernières chansons d'Ernie John intitulées Crépuscule à la frontière de ville et Perle perdue. Bonne écoute et à demain.
Atas kota selalu teringat padamu saat kita akan berpisah entah untuk berapa lama. Senja berganti, wajahmu selalu terbayang. Waktu engkau ku lepaskan, berdebar hati di dada. Sana menunaikan tugasmu senja di batas kota terlukis di dalam kalbu.
Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, est le service international de RRI. Nous diffusons tous les jours à travers les ondes courtes sur 9525 kHz par le site www.voinews.id/french ou par l'application RRI Play. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, informing, connecting, dignifying.
Bye.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/french.
Chers amis, un grand merci de votre fidélité d'écouter La Voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Avant de terminer cette émission, nous présenterons les musiques indonésiennes. Merci à tous et à bientôt!
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, La Voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, La Voix de l'Indonésie, RRI au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, La Voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.